20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il répète en ce moment Così fan tutte de Mozart au Théâtre du Châtelet, une production qu'il dirigera début février, et vient de nous livrer sa lecture au disque d'Attis de Lully, qu'il redonnera en version de concert lundi soir à Versailles avec ses talents lyriques. Christophe Rousset sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. 610 000 euros, c'est la somme récoltée par la Philharmonie de Paris dans le cadre de sa campagne de mécénat participatif pour Demos, qui s'est achevée mardi et a mobilisé plus de 3 300 donateurs. Une levée de fonds record qui permettra à plus de 1 000 enfants de rejoindre un orchestre Demos en région et de se voir confier un instrument. Aujourd'hui, Demos compte près de 50 orchestres répartis sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, et permet ainsi à 4 500 enfants qui n'ont pas accès à la musique de s'y initier grâce à la pratique orchestrale. La femme sans ombre de Richard Strauss à l'affiche de l'Opéra National du Capitole de Toulouse dès la semaine prochaine. Il s'agit de la reprise de la fameuse production mise en scène par Nicolas Joël avec de sublimes décors et costumes. La femme sans ombre, un véritable conte d'une grande poésie et d'une grande force orchestrale qui sera dirigée ici par Frank Berman avec, dans la distribution, Isacha Savage, Elizabeth Tage ou encore Sophie Koch. 4 représentations du jeudi 25 janvier au dimanche 4 février. Klaus Mäkeler retrouvera la semaine prochaine ses musiciens de l'Orchestre de Paris et donnera à cette occasion la création française d'une œuvre intitulée Arkora de la compositrice islandaise Anna Thorvaldsdóttir. Donc Klaus Mäkeler apprécie particulièrement les textures orchestrales, comme il nous l'avait confié récemment dans ce journal du classique, des textures, des sonorités qui évoquent pour lui ces fascinants et étranges paysages islandais faits de lave. Une œuvre à laquelle répondront le premier concerto de Chopin et le poème symphonique Une vie de héros de Richard Strauss. Rendez-vous donc mercredi et jeudi à la Philharmonie de Paris avec en soliste le pianiste Daniil Trifonov. Quelques notes de Chopin, le 8e prélude sous les doigts de Daniil Trifonov. Il jouera donc le premier concerto de Chopin mercredi et jeudi à la Philharmonie de Paris avec Klaus Mäkeler et l'Orchestre de Paris.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Après avoir triomphé récemment dans Médée de Cherubini, et c'était au mois de décembre, au Staatsoper de Berlin, Christophe Rousset retrouve en ce mois de janvier ses musiciens des talents lyriques pour une nouvelle production au Théâtre du Châtelet. Cette fois-ci, c'est le Così fan tutte de Mozart dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov qui a été créé l'été dernier à Aix-en-Provence. Entre deux répétitions, il dirigera Attis de Lully à Versailles, dont un enregistrement vient de paraître justement. Et puis sortira également la semaine prochaine son enregistrement de l'opéra Fausto de Louise Bertin qu'il nous a fait redécouvrir en concert la saison dernière. Bref, un mois de janvier intense pour Christophe Rousset qui a trouvé un moment pour passer nous voir ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes en pleine répétition en ce moment au Théâtre du Châtelet. C'est une reprise d'une production qui a déjà été créée mais avec une distribution je crois un petit peu changée. De combien de temps vous disposez quand vous faites une reprise comme ça? Vous avez le temps de remettre en route la production?
Quand on fait une reprise, de toute façon, en tant que directeur musical, c'est un petit peu, difficile d'intervenir. On peut donner un petit peu une inflexion, mais au fond, le spectacle existant déjà. Heureusement, Tcherniakov est là avec moi sur ces répétitions, mais c'est pas comme une création. Donc, il y a des ajustements qui sont faits, et en particulier avec la nouvelle d'Espina, qui est Patricia Petitbon. Mais disons que l'essentiel du cast, c'est le même, et le spectacle existe déjà. Donc, c'est sur des rails, et il s'agit d'épouser, ce qui est déjà en place depuis Aix.
Mais ce sont des moments que vous aimez particulièrement, Christophe Rousset, ces semaines. Alors, on est à 15 jours environ du début de cette production. Ces semaines qui précèdent ce travail avec les chanteurs, sans les musiciens de l'orchestre, mais avec d'autres relations.
Oui, moi j'aime tout type de répétition parce que c'est là qu'on met en place, c'est là qu'on creuse aussi une idée, c'est là que on est en discussion avec les artistes qui font la prod, on est aussi stimulé par le metteur en scène parce que je dois dire que moi c'est avec les metteurs en scène en général que j'ai les rapports les plus féconds et qui m'éclairent, qui me donnent des nouvelles pistes sur une œuvre, sur des idées philosophiques qui me permettent de comprendre mieux la dramaturgie en général. Donc, comme moi j'adore le théâtre, j'adore aussi suivre les répétitions scéniques.
Alors justement, le metteur en scène, Dmitri Tcherniakov, propose une lecture assez particulière de ce Così fan tutte. Il met en scène des couples âgés, alors que Mozart a écrit pour de jeunes personnages, des couples âgés qui s'adonnent à des pratiques d'échangisme. C'est une mise en scène qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a beaucoup divisé. Qu'est-ce que cette maturité, justement, des personnages peut apporter à cette œuvre, selon vous, Christophe Rousset?
C'est une autre gravité, c'est un autre point de vue. C'est sûr que dans le livret original, on a deux jeunes vierges qui s'apprêtent à perdre leur virginité et qui ont deux amants, deux prétendants avec lesquels elles vont se marier. Donc évidemment, les cartes sont battues de façon tout à fait différente à partir du moment où on a des personnages qui sont mariés et qui s'apprêtent à s'adonner à un jeu de rôle et qui évidemment donne beaucoup plus de vraisemblance, curieusement, à toutes ces scènes de travestissement, ces garçons qui partent à la guerre et qui reviennent travestis en orientaux, c'est un petit peu invraisemblable. Le fait qu'on puisse croire que Despina est un notaire ou un médecin, c'est un peu invraisemblable aussi, etc. Donc, dans l'idée du jeu de rôle, ça prend une dimension tout à fait différente et beaucoup plus grave, je trouve, d'une façon générale. Donc on est dérangé par cette mise en scène. Je pense que c'est à la fois très intelligent et très dérangeant.
Mais cela fait du bien parfois aussi d'être dérangé.
En tout cas, évidemment, tout le monde a son cosy en tête, son cosy idéal. Voilà, on a tous une idée sur cosy, surtout nous les musiciens, évidemment. Mais je pense que c'est bien, effectivement, de faire des pas de côté et puis de remettre en question une œuvre comme celle-là.
Alors, on connaît vos liens, Christophe Rousset, avec Mozart, avec de nombreux compositeurs que vous allez diriger cette saison. Dans l'édito qui accompagne justement la présentation de cette saison, des talents lyriques, vous parlez, il y a un mot très important, c'est le mot fidélité des compositeurs que vous défendez avec passion depuis des décennies. Alors, il y a Mozart et il y a également Lully.
Thank you.
La musique de Lully, un extrait d'Attis de Lully dans ce tout nouvel enregistrement des talents lyriques dirigé par Christophe Rousset avec Kieran White qui chante ici Le Sommeil et Nick Pritchard dans le rôle de Morphée, un enregistrement qui vient de paraître sous le label du Château de Versailles qui a été gravé en juillet dernier et que nous écoutons ce soir avec Christophe Rousset, notre invité sur Radio Classique. Vous allez redonner cet Attis de Lully, notamment à Versailles, ce sera le 22 janvier. Attis, c'est une œuvre emblématique de Lully, en tout cas de la redécouverte de Lully. Est-ce que c'est une œuvre intimidante ?
Elle m'intimidait pas, mais je, effectivement, sur mon grand parcours Lully, puisque je suis maintenant à mon 10e ou 11e opéra de Lully gravé, je voulais la laisser pour la fin parce que c'est vrai que j'étais dans l'aventure Attis des années 80 avec Christie les Arts Florissants et que je voulais oublier tous les réflexes parce qu'on l'avait tellement fait. Et effectivement, quand j'ai repris Attis là maintenant avec les talents lyriques, et ben tout le texte me revenait par cœur. Enfin, c'était encore gravé dans ma tête. Donc, ce qui était important pour moi, c'est d'éloigner les réflexes que j'avais eu avec cette production des années 80, et je voulais trouver moi mon propre chemin dans cette œuvre-là. Donc, j'ai effectivement été retourné aux sources, essayé de retrouver vraiment les bonnes idées sur l'instrumentation, quelques variantes de texte, quelques variantes de forme, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressé de pouvoir proposer autre chose déjà dans la partition. Et puis évidemment, je suis riche de ce que j'ai pu faire dans Lully jusqu'à maintenant. Donc il y a un certain nombre de réflexes. Je vois mon orchestre qui sait mieux que moi ce que je vais leur demander. Donc c'est très gratifiant de voir que tout le monde a bien compris dans quelle direction je vais. Et puis je fais toujours attention d'un enregistrement de Lully à un autre, de garder des éléments communs. Ici, nous avons Philippe Estef, nous avons Marie-Lys, qui sont des gens qui ont beaucoup travaillé avec moi et qui font une espèce de lien, de fil conducteur de cette intégrale. Et j'y tiens beaucoup. On parlait de fidélité aux auteurs, mais aussi aux interprètes.
Et qui ont justement cette aptitude à chanter la musique de Lully, puisqu'ils l'ont appris entre autres à vos côtés. Comment est-ce que l'on chante Lully, justement, Christophe Rousset ?
C'est une attention particulière au texte. Je pense que c'est ça la première chose. Et moi, je me transforme en dramaturge, c'est-à-dire que je leur déclame, moi, la façon dont ils doivent faire un récitatif. Et d'ailleurs, ça me plaît énormément d'être le dramaturge de ces opéras-là. Puisqu'on n'a pas de mise en scène, on n'a pas de metteur en scène pour nous aider, et ben c'est moi qui prends le chapeau du metteur en scène. Et je dois dire que c'est toujours assez extraordinaire. Ça serait bien de pouvoir faire un enregistrement vierge, c'est-à-dire avec les gens, les chanteurs qui arrivent comme ça, avec leurs propres idées, et puis l'enregistrement final avec mes idées mises en œuvre. Parce qu'en général, c'est le jour la nuit. Je veux pas me jeter des fleurs, mais en tout cas, je suis très très heureux de pouvoir à chaque fois amener tous ces interprètes vers ce qui me semble être le vrai sens d'une œuvre, en tout cas selon mon intuition à moi et mon expérience de cette musique.
Voilà donc Attis de Lully, que vous dirigerez demain d'ailleurs à Vienne, et puis le 22 janvier, donc lundi à Versailles. Il y aura un autre Lully cette saison pour vous, au mois de juin. C'est l'Armide de Lully, que vous dirigerez, Christophe Rousset, à l'Opéra Comique, dans une mise en scène signée L'île au bord, et dans les mêmes décors que l'Armide de Gluck, que vous aviez donné l'année dernière. C'est une démarche éco-responsable.
C'est ça, c'est exactement ça, et l'idée vient de moi, en fait. J'ai proposé ça à Louis Langrée à l'Opéra Comique, et ils ont sauté de joie, parce qu'effectivement il y a quelque chose d'éco-responsable là-dedans, une façon de recycler qui est amusante et stimulante aussi, puisque le metteur en scène aux prises avec une musique très très différente doit trouver les artifices.
Donc on retrouvera ce magnifique arbre.
Absolument.
Qu'il y avait sur la scène de l'Opéra Comique. Alors parmi les autres compositeurs auxquels vous êtes fidèle depuis des années et que vous dirigerez cette saison, Christophe Rousset, il y a Händel pour Jephtha, que vous donnerez à Oslo, à Namur et à Halle. Cimarosa avec son Olympiade, que vous dirigerez à Vienne et à Versailles. Salieri, un compositeur dont vous êtes un grand ambassadeur, dont vous donnerez le coup Bas et Gran Can de Tartari, ce sera à Vienne. Donc, les talents lyriques parcourront l'Europe encore cette saison.
Eh ben oui, c'est un petit peu notre mission. Donc, on prend notre bâton de pèlerin et puis on prêche la bonne parole un petit peu partout en Europe. Effectivement, du nord avec Oslo, à l'est avec Vienne et puis à Paris beaucoup cette année. C'est une chance pour moi parce que je suis pas très souvent chez moi. Donc, entre le Châtelet, l'Opéra Comique et Versailles, je suis très 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 heureux d'être un petit peu chez moi.
Et puis il y a les découvertes, vous aimez cela également, les découvertes, Christophe Rousset, vous aimez réhabiliter des œuvres oubliées. On découvrira la semaine prochaine au disque votre enregistrement de Fausto, c'est une œuvre de Louise Bertin que vous avez donnée en concert, en version de concert l'année dernière au Théâtre des Champs-Élysées, ce qui nous a permis nous de découvrir cette œuvre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Louise Bertin, c'était une compositrice contemporaine de Berlioz.
Oui, et qui effectivement était amie de Berlioz et dont d'ailleurs la chronique disait que c'était Berlioz qui avait écrit une grande partie dans son Esmeralda qui a été donnée à l'Opéra de Paris. Donc elle a été sujette à une cabale extraordinaire parce que elle était la fille du fameux Bertin, qui était un personnage très très en vue, qui était le directeur du journal des débats à Paris, et on prétendait que sa carrière était due à son père. Or, quand on entend Fausto, on est vraiment ébloui par une vraie maîtrise de la composition. Elle compose extrêmement bien, elle a une idée des couleurs, des cuivres, de la petite harmonie. Il y a une vraie vocalité. Elle s'est amusée ici à faire un opéra en italien, pour les Italiens à Paris. C'est assez étonnant. Et puis, le rôle de Fausto, donc, le rôle titre, est attribué à une mezzo. Là, en l'occurrence, c'est Karine Dehaye. Donc, on est vraiment en Italie, bien que la rhétorique et l'orchestre vraiment fassent penser, effectivement, à Berlioz avant tout.
À Rossini aussi. Il y a quelques accents de Rossini
dans
la partie vocale.
De temps en temps. Et puis, moi, je dirais que Gounod a connu cette œuvre-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui anticipe sur son Faust à lui. Donc non, c'était une aventure passionnante qui a été initiée par le Palazzetto Brusani, il faut quand même le préciser. Voilà, ils ont fait tout le travail éditorial, c'était une longue histoire, corriger les fautes, se lancer dans un inédit, c'est aussi voilà, on sait pas du tout dans quoi on se lance. Donc on respire un petit peu dans les coins, on va voir un petit peu comment ça se passe, et c'est une œuvre très compliquée, il y a beaucoup de changements de tempo. Il y a évidemment essentiellement de l'accompagnato, de l'orchestre, mais il y a un petit peu de récitatif secco.
Oui, ce qui est d'ailleurs surprenant pour un abo de cette époque.
Au pianoforte. Et puis voilà, des structures assez complexes, des ensembles, des moments très psychédéliques, forcément, pour une œuvre qui convoque Méphistophélès. Enfin, c'était une expérience très, très passionnante.
Des références aussi au Don Giovanni de Mozart. Les premiers accords, d'ailleurs, de l'ouverture.
Absolument, ça. Absolument. C'est la première chose qui m'est venue en tête, c'était Don Giovanni sur le début de l'ouverture.
Distruggere quel fatal contratto.
Un air de Fausto, opéra de Louise Bertin, chanté par Karine Dehé avec les talents lyriques de Christophe Rousset. Un enregistrement qui paraîtra la semaine prochaine sous la forme d'un magnifique livre-disque publié par le Palazzetto Bruzane. Alors que vous êtes en ce moment, donc Christophe Rousset, en pleine répétition de ce Così fan tutte au Théâtre du Châtelet, que l'on pourra découvrir du 2 au 22 février. 10 représentations, c'est beaucoup. 10 représentations, on a rarement la chance de pouvoir aller aussi loin dans l'exploration d'une production.
Mais oui, donc on s'en réjouit évidemment, parce que passer un mois avec Mozart, quel bonheur.
Voilà donc la musique de Mozart, la musique de Lully également, beaucoup d'opéras et puis des concerts aussi, des concerts en France, des concerts en Europe, avec une résidence aussi importante pour les talents lyriques à Würzburg en Allemagne.
Effectivement, c'est un festival Mozart, un des plus anciens d'Europe d'ailleurs, Würzburg, dans la résidence du prince-évêque, sous les fresques de Tiepolo. C'est vraiment un lieu absolument divin, et donc là aussi on va faire un Così fan tutte avec une distribution très sensiblement différente, et puis un récital de baryton avec Benjamin Apple, et puis de la musique de chambre. Enfin, c'est une chance. Je vais aussi enseigner à des jeunes gens. On va participer à des tables rondes sur Mozart et Paris, etc. Donc il y a toute une effervescence autour de Mozart, et en tout cas moi j'ai la chance d'être ici l'artiste en résidence, donc c'est un grand honneur.
Et on va terminer avec du clavecin, votre instrument, Christophe Rousset, puisqu'est paru tout récemment, l'automne dernier, un nouvel enregistrement de votre cycle Bach. C'est la fin de votre cycle Bach au disque chez Aparté.
En tout cas, c'est le point d'orgue, oui. L'art de la fugue. Il resterait l'alpha, puisque ça c'est l'oméga, il resterait l'alpha qui sont les toccatas, qui sont déjà en boîte d'ailleurs et qui devraient sortir bientôt.
Et qu'est-ce que cela représente pour vous justement, cet art de la fugue de Jean-Sébastien Bach?
Pour moi, c'est un petit peu... Vous connaissez cette image de Spinoza en train de polir ses lentilles. Pour moi, c'est le diamant que Bach a poli toute sa vie, qui est la fugue. Et donc, il a commencé par des fugues un peu trop longues, souvent sur des thèmes italiens, etc. Et puis, ce qu'on trouve dans les toccatas, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, avec les deux livres du clavecin tempéré, la fugue devient de plus en plus essentielle, je dirais. Et sans doute que l'art de la fugue est la quintessence. C'est incroyable de se dire que cette forme qui est tellement surannée, qui date de la Renaissance essentiellement, tout à coup, ici, Bach la pousse le plus loin possible avec des triples fugues, des thèmes à l'envers, à l'endroit, allongés, raccourcis, etc. Enfin, c'est une œuvre d'une complexité absolument incroyable qui m'a pris beaucoup de temps, et heureusement qu'il y avait le confinement pour me donner ce temps-là, parce que je ne sais pas si seulement je me serais jeté dans une telle aventure.
Mais on va écouter un petit extrait donc de cet art de la fugue, l'un de vos récents enregistrements. Christophe Rousset, merci beaucoup. On vous retrouve donc le 22, lundi 22 à Versailles pour Attis de Lully, et puis à partir du 2 février dans la fosse du Théâtre du Châtelet pour ce Così fan tutte de Mozart. Merci beaucoup.
Merci à vous, Laure.
un extrait de L'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach par Christophe Roussy, un extrait de ce tout récent album sorti chez Aparté. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Tourou-Lassalle pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie du pianiste Cédric Tiberien. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique. Thank you.